Merci beaucoup à notre équipe, notre trio ce matin. On nous a conduit en louange. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être ici également. Vous savez, le combat continue. Vous saviez qu'on est dans un combat. Ça n'arrête pas, hein? Ça n'arrête pas parce qu'on a un ennemi qui, lui, ne relâche point. Un jour et nuit, il va s'acharner à vouloir détruire l'Église, vouloir détruire notre témoignage et de garder, surtout de garder le mensonge devant la face du monde afin que le plus grand nombre ne découvre point la vérité. Alors, continuons le combat, frères et sœurs, et encourageons-nous à vraiment garder, être vigilants et garder ces armes spirituelles contre les traits enflammés de l'ennemi. Alors, on continue cette série qu'on a choisie parmi tous les livres de la Bible. On voit que l'épître de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens, était vraiment un appel aux croyants de l'Église à Corinthe de lever les armes et de rester ferme dans le combat, parce qu'il se passait des choses à Corinthe. Il s'en passait tellement que Paul a écrit plusieurs chapitres adressant plusieurs problèmes. Et on voit dans la suite des différentes présentations qu'on a eues jusqu'à date, Paul a averti, Paul a exhorté, il a encouragé, il a dit des choses qui étaient difficiles à entendre, mais il devait les dire pour que les leaders et les gens à Corinthe réalisent à quel point la situation était grave. Alors, ce qu'on a vu à date, Paul avertit les leaders de l'Église que leur mauvaise compréhension de l'Évangile se reflète dans leur façon de vivre et crée une mauvaise influence parmi les croyants. Il somme également les leaders de ne pas être tolérants vis-à-vis le péché dans l'Église et d'exposer avec amour et humilité en disciplinant ceux qui le commettent. Il encourage également tous les membres de l'Église à servir Dieu, indépendamment de leur situation, qu'ils soient mariés, célibataires, veufs, veuves. Et voilà maintenant qu'il exhorte les croyants de l'Église à faire une saine, une bonne utilisation de leur liberté en Christ. Voilà ce qu'on va voir dans ce quatrième bloc de cette série, la fameuse liberté qu'on peut retrouver chez le croyant dans l'Église et à quel point Paul souligne qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Et Paul ici répond à une question qu'on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas de quelle façon elle a été adressée, on ne sait pas comment c'est exactement venu à ses oreilles, mais il devait adresser ce sujet-là parce qu'il y avait un problème, c'était évident, comme on va le voir dans le texte. J'ai choisi cette image-là, certains me connaissent et je pense que je suis teinté par tout le temps que moi et mon épouse passons à l'écurie de notre fille Amélie. Mais je voyais que c'était quand même l'image des grands espaces, hein, où est-ce qu'on a un visuel sur notre liberté, mais qu'il faut voir qu'il y a des barrières. Et dans ces grands espaces-là, on finit toujours par y trouver une barrière, une clôture. Donc, Paul veut parler de cette situation-là. Et on va commencer par le premier verset. Le premier verset qui mentionne quel était le problème. Et ça peut sembler un peu bizarre, mais on va avancer dans cela et de découvrir à quel point ce problème-là qu'on peut trouver bizarre aujourd'hui a vraiment sa place d'être, qu'il est pertinent, que c'est quelque chose qui vraiment nous parle à nous, même en 2021. Alors voilà, au verset 1 du chapitre 8. Paul y rentre tout de suite dans le sujet. « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. » Avant d'entrer dans le sujet des viandes sacrifiées aux idoles, Paul fait comme une parenthèse. Il mentionne quelque chose qu'il a besoin d'expliquer. C'est comme il fait une remarque et il a besoin d'expliquer cette remarque-là. Il fait comme une capsule dans une capsule. C'est comme si j'expliquais à quelqu'un comment faire un gâteau. Tu sais, je vais donner une recette de gâteau. Je vais dire, bon, bien là, premièrement, pour faire un gâteau, bien, ça va prendre la farine. Là, stop, je m'arrête là. Et là, j'ai un besoin de vous faire comprendre, c'est d'où vient la farine. Parce que je pourrais donner la recette du gâteau sans expliquer d'où vient la farine. Mais moi, j'ai une idée là, que c'est important, si vous voulez vraiment faire un bon gâteau, vous devez comprendre, quand je dis farine, il y a bien des affaires à comprendre par rapport à la farine. Quelle sorte, quelle couleur, tamisée, pas tamisée, etc. Ouais, je ne connais pas grand-chose là, de la farine, mais voyez, j'ai besoin d'expliquer d'où vient la farine. Qu'elle vient du blé, et puis là, c'est ramassé, c'est mou, etc. Tu sais, là, parce que j'ai besoin de vous expliquer ça, c'est important. Donc, il va expliquer quelque chose à l'intérieur d'un grand sujet. Et pour ce qui est de la question des viandes sacrifiées aux idoles, alors là, Paul mentionne, « Nous savons que nous avons tous la connaissance. » Stop! Là, il a besoin d'expliquer ça. C'est comme la farine dans le gâteau. La connaissance. Et là, il veut expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par cela. Et je pense que cette remarque-là que Paul fait est tout aussi importante que la question des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que pour pouvoir décoder son message à propos des viandes sacrifiées aux idoles, vous devez avoir une clé. Et là, Paul donne cette clé-là. Et voilà, verset 1, il dit, « La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Qu'est-ce qu'on doit entendre par « avoir la connaissance » Avoir cette connaissance-là, pour Paul, c'était d'avoir la connaissance de Dieu, appartenir à Dieu, d'avoir le discernement spirituel de Dieu et évidemment s'approprier son amour pour pouvoir donner cet amour-là à son prochain. C'est ça qui était important pour Paul de comprendre. Hein? Quand il parlait de connaissance, ce n'était pas une question de quotient intellectuel ou de savoir le contenu de tel ou tel livre, mais c'était la question d'être connu de Dieu et de pouvoir aimer. Aimer de la façon dont Dieu aime. Ça, là, c'était quelque chose vraiment de clé. Avant que je vous parle des viandes sacrifiées aux idoles, Paul, c'était important, vous devez saisir ça en premier. Quand je vous parle de connaissance, c'est la question de l'amour de Dieu que vous pouvez donner à vos prochains. Mais là, vous allez dire, connu de Dieu? Mais Dieu, il connaît tout le monde, lui. Qu'est-ce que tu entends là, par là? Que tu sous-entends qu'il y en a qui ne sont pas connus de Dieu. Eh bien, bien des gens croient que Dieu existe. Et oui, Dieu connaît tous les êtres humains. Mais regardez, par exemple, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est abordé par ces religieux, ces gens qui se pètent les bretelles en lui disant toutes ces choses qu'ils sont capables de faire, même en son nom. Et on le lit dans Matthieu chapitre 7, où Jésus donne une sérieuse mise en garde à ceux qui, par exemple, enseignent le salut par les bonnes œuvres. À ceux qui proclament l'accès au ciel par le mérite de ce qu'ils ont accompli. Hey, check ça. Hey, moi, je fais ça. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. C'est bon, hein? Mais voilà ce que Jésus leur répond. Il leur dit ouvertement, hein? C'est Jésus qui parle, « Je leur dirai, ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » De proclamer un autre évangile que celui de Jésus-Christ par la foi seule, c'est un manque d'amour envers Dieu. Et l'apôtre écrit que telle personne même soit anathème. Il mentionne ça aussi. Hein? Est-ce que vous êtes connu de Dieu? Est-ce que vous êtes de ceux qui aimaient Dieu, que vous avez été attirés par sa grâce irrésistible? Et si c'est le cas, vous savez alors que vous connaissez cet amour sur lequel l'apôtre veut attirer notre attention. Alors, Paul clarifie sa réponse en répétant encore ce qu'il mentionne au premier verset. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, hein, » il revient sur la question de la connaissance, n'oubliez pas ça, « nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il y a un seul Dieu. Nous savons que, hein, nous le connaissons, parce que nous sommes connus de lui. Nous l'aimons. C'est la fondation de la connaissance de cet amour, de l'amour de Dieu. » Et là, on va revenir à la question que Paul doit répondre aux croyants de Corinthe. En d'autres mots, Paul il dit, nous sommes enfants de Dieu. Hein? On établit ça. On est connus de Dieu. Nous connaissons cet amour de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, hein, des minuscules au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Au verset 5, Paul reconnaît, il dit, écoute, on n'est pas fou là. On reconnaît que le monde s'est donné toutes sortes de dieux, à toutes les circonstances, pour le soleil, pour les éclairs, pour la pluie, pour avoir des enfants, n'importe quoi. Ils ont des dieux à toutes les sauces. Et Paul, il dit que comme croyant, là, écoutez, on n'est pas ignorant de cette réalité-là. On sait que c'est ça que les gens font. C'est ce qui se passe autour de nous. Mais au verset 10, il dit, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Hein, je vois tout ça, là, mais je sais, il y en a juste un. « Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Encore une fois, l'apôtre, il répète, il réitère la conviction profonde de ceux qui ont la foi, de ceux qui sont connus de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul, un seul Dieu créateur, le Seigneur. Et son nom, il le nomme même, c'est Jésus-Christ. Il met le Christ au centre. Lorsqu'il fait l'identification de ce Dieu unique-là, il le nomme Jésus-Christ. Et du même coup, Paul, il veut être certain que les croyants de l'Église saisissent la nature divine de Jésus. Si vous ne saisissez pas cela, mes amis, c'est probablement une des plus importantes failles de théologie biblique qui peut même amener quelqu'un à présenter un évangile dans lequel Christ n'est pas au centre. C'est dangereux. Si on ne saisit pas que la personne de Jésus-Christ est Dieu, c'est dangereux. C'est une théologie dans laquelle Jésus y est placé au niveau des divinités du monde. Ou peut-être même le contraire. On va prendre ces idoles, les divinités du monde, et on les amène au même niveau que Jésus. Des fois, c'est ça qui se passe. Hein? C'est très subtil et on s'en rend pas compte dans nos raisonnements. Et là, on continue au verset 7. « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Voilà. Le Paul met le doigt sur le bobo. Ils disent, vous êtes des croyants à Corinthe, mais il y en a qui ne saisissent pas encore cela. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ses viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce qu'il faut comprendre dans cela, c'est, quand je mentionnais quelque chose, là, la question, l'aspect bizarre de ce que l'apôtre parle pour nous aujourd'hui, hein, c'est que l'aliment qui était préparé, qui venait de l'animal, était sacrifié à un dieu quelconque, un idole, et que ce dieu, celui-ci, allait entrer dans l'aliment pour être ensuite mangé par la personne qui désire être habitée par la divinité ou les pouvoirs qu'elle représente. Donc, voyez-vous là comment ça se passait? Il y avait quelque chose de vraiment spécial concernant ces viandes-là. Tu sais, il se disait, écoute, là, ça, c'est comme, il y a comme un dieu dans ça, il y a comme une puissance qui est habitée, puis là, en le mangeant, je vais m'approprier cela. Ils attribuent aux idoles un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Et certains croyants, des croyants dans l'Église, étaient horrifiés à l'idée de mélanger, ils allaient mélanger une divinité étrangère avec le Saint-Esprit de Dieu en la mangeant. Et puis là, ils ont un dilemme de conscience. Hein, ils se disent, ça n'a pas d'allure. Et puis là, Paul les qualifie de faibles. On pourrait aussi dire fragiles, vulnérables. Pas qu'ils étaient stupides ou faibles physiquement ou quoi que ce soit, mais leur foi et leur conception, leur discernement étaient fragiles, vulnérables. Et dans le reste du texte, l'apôtre, c'est comme ça qu'il va les identifier, les faibles. Et là, Paul les rassure. Il va encore le mentionner. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, Paul fait le point que la nourriture, elle est inerte, sans pouvoir. Évidemment, elle va nourrir. Hein? La nourriture est bonne pour le corps, dans le sens qu'elle va vous donner les protéines, les vitamines, les minéraux, tout cela. Mais ce n'était pas ça que Paul voulait dire. Il n'y a rien qui va venir d'une divinité à travers cet aliment-là. C'est comme l'eau. L'eau, lorsqu'on baptise. L'eau du baptême n'est pas habitée par le pouvoir du Saint-Esprit qui va purifier votre âme lorsqu'on vous plonge dans l'eau. Bon, l'eau comme telle peut avoir un pouvoir purifiant pour votre corps. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé à la douche, c'est sûr que ça va faire du bien. Mais croiriez-vous que même si je vous disais qu'il y a des mouvements, il y a des croyances qui donnent à l'eau un pouvoir sacré, lors du baptême, ils vont utiliser une eau qu'ils disent sacrée, et là, ils vont l'asperger, dire, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. À cause de cette eau-là, il y a un pouvoir sacré et l'Esprit de Dieu arrive. Ou même que le pain, lors de la communion, est devenu autre chose que du pain. Échappe-le pas à terre. Croque-les pas. Non, mais c'est triste, hein? Pensez-y, c'est triste de voir cela. C'est exactement ce que Paul craint, c'est de voir Jésus qui, comme les idoles de Corinthe, y habite un aliment qui va être mangé pour purifier le croyant. Donc, Paul d'un premier temps, il veut se voir rassurant. Hein? Il veut se voir rassurant, mais tout porte à croire qu'à ce point-là, là, il va s'en prendre à ceux qui ne comprennent pas. Hein, on pourrait s'imaginer ça, de dire, bon, voyez-vous, là, il y en a qui attribuent aux aliments des pouvoirs spéciaux. Et puis là, ça va être comme, on s'attend à ce que Paul va dire, là, vous allez leur parler à eux autres. Vous allez leur dire là, qu'ils sont dans le champ. Puis là écoute, là, qu'ils arrêtent d'avoir des troubles de conscience pour ça. Mangez-en, vous n'en mourrez pas, il n'y a rien là. Eh bien, non. Et puis la suite, la suite dans la lettre de Paul va certainement en surprendre plusieurs. Paul, il continue de s'adresser à ceux qui ont la connaissance. C'est à vous autres que je parle. À ceux qui comprennent bien tout cela. Au verset 9, il dit « Prenez garde toutefois que votre liberté » Ah oui, vous êtes libre d'en manger. « Mais que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, ceux qui sont fragiles, vulnérables de conscience. Prenez garde. Faites-la pas tomber. » Ah là, ça, on peut dire, ça se corse, parce que les instructions de Paul prennent une tournure assez, je dirais, saisissante. Hein? À vous qui comprenez, faites attention. Je vous avertis. Vous savez que vous avez la pleine liberté, mais ne soyez pas un piège. Ne faites pas trébucher. Soyez pas la petite pierre là, qui est à terre, qui va faire tomber la personne. Faites pas ça. Et là, on va se dire, bien écoute, attends un peu, là. Ma liberté a le risque de faire tomber quelqu'un. Eh bien là, Paul, il faut qu'il s'explique, parce que les gens vont dire, bien là, à quoi tu vas en venir, Paul? Au verset 10, « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? En usant de ta liberté, hein, tu risques de semer la confusion chez celui qui s'efforce d'en priver. Hein? Tu veux l'influencer là, pour lui donner encore plus de remords de conscience ou de le troubler psychologiquement, spirituellement, ou bien même de le scandaliser. De le scandaliser de voir un croyant qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il va être horrifié, choqué, au point même de te voir comme un transgresseur, un pécheur sans scrupules. Eh bien, dans les deux cas, la situation est tragique. Et voilà comment Paul le décrit. Et soit dit en passant, c'était une réalité du temps. Les gens allaient dans ces endroits qu'on appelait des temples, et ils y allaient, des croyants qui y allaient allègrement, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de problème d'y aller, et ça posait problème pour d'autres. On va y revenir sur cela. Paul va adresser encore une fois la question du manger, de ces viandes d'idoles sacrées et du contexte. Et on va le voir encore au chapitre 10, et c'est Christian qui va nous apporter ce passage, qu'il y avait une réalité là, il y avait un contexte historique, un contexte culturel, un contexte spirituel du temps qui amenait une situation vraiment problématique. Et voilà, Paul dit à quel point c'est tragique. Au verset 11, « Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Une insouciante liberté qui devient une occasion de chute pour le frère ou la sœur. Et l'apôtre ne ménage pas ses mots en disant même que c'est nous, hein, ceux qui avons la connaissance, ceux qui comprennent ça, qui péchons contre ceux qui sont faibles. Et au verset 12, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Aïe, aïe! Christ est mort. Christ est mort pour ce frère pour qui il désire l'amener à Dieu. Le Seigneur, il désire l'amener à la stature d'un homme fait, d'une personne mature dans la connaissance de Dieu et de l'amour de son prochain. Et là, au nom de notre sainte et adorable liberté, nous autres, on vient saboter, on vient torpiller ça. Et soit que ça va le plonger encore plus dans sa faiblesse, ou ça va le transporter dans la médisance et la calomnie à l'égard des frères qui font ces choses-là qui sont absolument épouvantables. Pour lui, à ses yeux. Alors, je peux juste imaginer le Seigneur lorsque je suis dans une situation où je suis une pierre d'achoppement pour mon frère. Et puis, je me dis, bien là, écoute, moi, je suis libre de le faire. C'est pas un problème. Et là, le Seigneur qui me tape sur l'épaule puis me dit, « Hey, bravo, champion. Regarde comment il est rendu à ce temps. Tu ne l'as pas amélioré, là. » Et Paul conclut au verset 13, « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je n'en mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. La responsabilité est sur moi. Moi qui comprends. C'est moi qui ai le fardeau, pas lui. Tant ou aussi longtemps que ma liberté risque d'être une occasion de chute pour mon frère, je vais m'en priver. Non seulement ça, mais tu sais, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, j'en mourrai pas, puis la dignité du nom du Seigneur sera honorée. » Mais ce n'est pas facile tout cela. On peut peut-être essayer de mettre ça en contexte avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Vous avez certainement vu cette charte qui s'intitule « Charte canadienne des droits et libertés ». Alors, je sais que vous n'êtes pas capable de la lire, c'est trop petit, mais je vais vous mettre en gros les grandes lignes des droits dans lesquels chaque citoyen canadien, et là, vous pouvez les trouver, quelque chose de semblable au niveau de la province et plusieurs autres pays, au niveau des Nations unies, il y a une charte des droits et libertés fondamentales des êtres humains qui va se ressembler et dans lesquels vous allez trouver sensiblement les mêmes phrases. Alors, regardez ça, il y en a une panoplie et ça, ce sont les principaux. Hein. Vous avez une garantie des droits et libertés, vous avez des libertés fondamentales, des droits démocratiques, des garanties juridiques, des droits sur les langues, la langue officielle, des droits sur l'instruction dans la langue maternelle, etc., etc. Et on va juste regarder un petit peu plus en détail les articles 1 et 2 de notre charte, pour y aller un petit peu plus en détail dans les choses auxquelles on a droit. Parce que vous savez, on est dans une société de droit. Moi, j'ai droit à ça. C'est mon droit, ça. On entend ça souvent. Alors, vous avez droit à la vie, la sécurité, l'intégrité, la liberté de la personne, la liberté de conscience, de religion, d'opinion, hein, de respect de sa vie privée, de l'utilisation paisible à la libre disposition de vos biens. Vous avez droit à une demeure inviolable. Vous avez même droit au respect du secret professionnel. Voyez, il y a deux éléments. C'est des droits que vous avez, mais il y a des limites. Voyez-vous, vous avez le droit de vous réunir. En autant, vous vous réunissez pacifiquement. Tu te réunis, mais ne fais pas le trouble. Il faut que ce soit un rassemblement légal. Et aussi, vous avez droit à l'utilisation de vos biens, hein, sauf à la mesure prévue par la loi. Donc, c'est certain qu'il y a des choses que vous avez le droit d'avoir, mais vous devez l'utiliser correctement. Tu sais, moi, dans mon temps, on appelait ça les carabines à plomb. Mais aujourd'hui, c'est du airsoft, je pense. C'est des espèces d'armes qui tirent des petites palettes en plastique, puis c'est assez puissant, ça pince. Et puis, si vous utilisez ça, bien, ils disent, il y a un règlement. Il faut que tu aies les lunettes. Il faut que tu aies de la protection pour commencer, parce que c'est pour tirer... Vous pouvez vous amuser en tirant sur les autres, en jeu, mais ça prend, il y a des choses à faire pour jouer sécuritairement. Et le airsoft n'est pas fait pour tirer le chat du voisin ou l'écureuil qui passe sur le fil électrique. Voyez-vous, il y a des lois qui prévoient comment l'utiliser. Donc, il y a toujours des restrictions. Même si vous y avez droit, il y a des limites. Et là, on va tomber un petit peu dans la philosophie, la question de l'éthique. L'éthique du droit. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours en débat constamment par rapport à tel droit. Il y a tout le temps un peu un jeu de jusqu'où je peux aller exactement. Mais voilà en gros ce que dit l'éthique du droit et de la liberté sur le plan même international. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui, Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres l'utilisation de ces mêmes droits. On pourrait prendre des exemples, tu sais, la liberté de possession. Hein, j'ai le droit d'avoir, j'ai-tu le droit, ma mère, d'avoir un biscuit? Je peux-tu manger des biscuits? Hein, mettons, on est toute la famille autour de la table, il y a un pot de biscuits. Maman, je peux-tu avoir des biscuits? Bien sûr. Alors, je vais tout manger le pot de biscuits. J'en laisse pas aux autres. Bien, j'ai le droit d'en manger. Mais là, les autres n'en ont pas eu. Alors là, mon droit, ma liberté de manger des biscuits, ça nuit à l'autre. Il y a des limites. Alors là, il faut qu'il y ait peut-être un règlement mis en place pour dire, bien, lorsque tu manges les biscuits, il faut t'en laisser aux autres. Il y a comme une éthique, là, une règle de respect. La liberté d'expression. Hein, je ne peux pas aller dans un cinéma et parce que j'ai le droit de dire n'importe quoi, je me lève et je vais crier au feu, même s'il n'y a pas de feu. Je n'ai pas le droit de faire ça, même si je suis libre d'expression, parce que ça va créer une émeute, les gens vont paniquer, les gens peuvent se blesser. Ou je ne peux pas être à l'école et dire, ben moi j'ai le droit de dire ce que je veux, alors je vais traiter mon ami de con stupide. Je ne peux pas faire ça, même si j'ai la liberté d'expression. Et présentement, on vit un phénomène social qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faudrait censurer certains mots du dictionnaire ou de notre langage courant parce qu'ils offensent certains groupes de personnes. Dans certains cas, peut-être le débat porte à réflexion. C'est pas toujours mauvais de peut-être remettre en question l'utilisation de certains mots. Mais dans d'autres cas, on voit qu'il s'agit d'un effet secondaire, d'une dérive morale de notre société. Et puis ça, il ne faut pas en être surpris. Nos gouvernements ont ouvert la porte à des nouveaux droits à propos de choses qui autrefois étaient interdites. Et on se demandait dans ce temps-là où ça allait aller. Et voilà, t'es rendu qu'on ne peut même plus en parler. Quels sont vos droits les plus importants? Seriez-vous prêt à les abandonner? Seriez-vous prêt de vous les faire enlever de force? Hein, c'est la bonne question à se poser pour s'amener à réfléchir ce que Paul dit aux Corinthiens, parce que Paul, il va au-delà des mots à ne pas dire. Ce n'est pas une question de censure, dites plus ça, dites plus ça. Il parle de nos actions, de nos gestes, de nos habitudes. Hein, vous êtes libre d'en manger, mais n'en mangez pas pour ne pas nuire à l'autre, parce qu'en faisant ainsi, tu pêches. J'ai l'impression de me faire enlever une liberté fondamentale. C'est difficile, ça. Parce que j'ai cette liberté-là, puis coudonc, il me semble que ça ne cause pas de trouble. Ils ont juste à essayer de comprendre. Mais comment je peux composer avec ça? Et le piège dans ça, mes amis, le piège, c'est de tomber dans les deux extrêmes. Et c'est de trouver un équilibre dans ces deux extrémités-là. Hein? Dans un, hein, avec le principe de base, de ne pas devenir l'esclave de la conscience de l'autre. Ce n'est pas à ça qu'on va en venir. Mais je veux trouver un équilibre entre constamment m'efforcer d'être comme celui qui est faible ou fragile ou de vraiment d'essayer de le convaincre constamment d'être comme moi. Il y a un équilibre à y trouver et c'est là que ce n'est pas évident. Trouver cet équilibre entre hein, les deux extrêmes, sans être un esclave de la conscience de l'autre. Alors, on va considérer deux points. Premièrement, je pense qu'une des choses, c'est de bien cerner la situation. Cerner la situation qui sont à risque. Ces choses dans lesquelles mon frère, ma sœur s'abstient et parce qu'il les perçoit comme mal, où ça pourrait peut-être même l'entraîner dans une dépendance, voire même de l'idolâtrie. Hein, par exemple, on sait, c'est très populaire, YouTube. On transmet même cette célébration sur la plateforme. Mais YouTube, il y a bien des choses. Et je peux partager à des amis à l'église, des choses que je regarde sur YouTube. Et peut-être que mon ami va trouver, « Ouh, tu regardes ça, toi? » Mais il semble qu'il y va fort un peu sur telle et telle chose. Il me semble que c'est pas tout à fait bien. Je suis pas à l'aise, moi, de regarder ça. Ou peut-être d'aller prendre un repas dans un resto-bar où l'ambiance est très, 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 très décontractée. Ou voire même de vouloir porter des vêtements qui mettent en valeur mon corps. Alors ça, tu sais, on peut identifier des situations qui sont plus à risque et d'être sensible à ça. Et il y a des situations où est-ce que, jusqu'à un certain point, je me dis, je ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Tu sais, la question peut-être de dépenser mon argent pour des objets ou des choses qui peut-être semblent moins essentielles pour l'autre, mais que si moi j'en ai un besoin, tu sais, voiture neuve, faire un voyage, ou même travailler pour une entreprise qui n'a pas nécessairement une bonne réputation. Tu sais, il y en a que ça les dérange. Je vous le dis, j'ai connu un chrétien qui, lui, là, il était vraiment mal à l'aise avec la situation au fait que j'étais militaire, que je pouvais être chrétien et militaire. Là, lui, c'était comme, faudrait que tu lâches ta job. Ça n'a pas de sens que tu sois dans ça, là. Lui, il avait un problème de conscience du fait que j'étais mon employeur. C'était pas compatible avec mon identité de chrétien. Alors, voyez-vous, à un moment donné, il y a un point tel que il y a des choses que je peux sur lesquelles je peux avoir un certain contrôle et d'autres, à un moment donné, il y a comme une limite aussi. Mais l'important dans ça, c'est d'y ajouter ce que moi je dis l'ingrédient essentiel de cette connaissance que Paul parle pour réussir. Hein? J'aime Dieu, je suis connu de Dieu, donc j'aime mon prochain qui de plus est lui aussi connu de Dieu. Je dois constamment garder ça à l'esprit. Je vais le faire par amour pour lui, pas parce qu'on me force à le faire. Mais Paul, il a martelé le même principe lorsqu'il parlait du mariage pour les couples au chapitre 7. Hein? Attendez-vous à rien de l'autre. Hein, et donnez tout à l'autre. C'est le même principe. C'est par amour que vous allez le faire, par sacrifice. Écoutez, j'ai lu ceci récemment, donc je vais taire la source, mais j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai pensé le mettre juste pour faire réaliser à quel point le problème vient de nous. Hein. Et voilà ce que ça disait dans ce que j'ai lu, que de véritablement aimer l'autre, c'est en bonne partie faire mourir son égoïsme. Hein, parce que, tu sais, ma liberté, mes affaires, mes droits. Et puis là, ben, je m'aperçois que ça fait du mal à l'autre. J'ai lieu de me poser des questions. C'est ça que le Seigneur me demande. Hey, réfléchis-y, pense-y. Pense à ce que tu es en train de faire. Par amour pour l'autre. Et si vous avez... Moi, je vous invite à réécouter le message de Benoît dimanche dernier concernant cet amour. Cet amour que l'on doit avoir envers l'autre, mais qui est venu de Dieu, de Christ en premier. Et Paul adresse le même problème à l'Église de Rome, aux Romains qui avaient un problème avec la question du manger. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout ou tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » C'est le travail du Seigneur, ce n'est pas le nôtre, c'est lui qui va travailler son cœur. Et pour ceux qui sont affermis ou peut-être réfléchissent à cela et dire, est-ce que je suis peut-être faible de conscience dans certaines choses? Alors, on peut se poser deux pistes de réflexion. La première, est-ce que j'ai tort à ce sujet? Est-ce que je suis trop libéral par rapport à telle ou telle chose? Ou suis-je faible de conscience par rapport à différents sujets? Si oui, je pense qu'on a besoin de s'humilier. S'humilier par rapport à Dieu, demander pardon à Dieu, puis même d'aller demander pardon à ceux qui ont cru avoir offensé par notre liberté un peu large. Et si ce n'est pas le cas, deux choses. Hein? Prions le Seigneur pour de ne pas être une occasion de chute pour nos frères. Et aussi de prier pour la sagesse. Hein? Si Dieu peut-être peut nous montrer d'être un aide pour nos frères, nos sœurs, dans leur affermissement que le Seigneur fait pour eux. Et si on peut être, si on peut faire partie de ça, si je peux aider, alors priez que le Seigneur me mette à la bonne place avec la bonne attitude. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ces paroles que Paul adresse, qui sont difficiles, Seigneur. Une liberté que j'ai tellement à cœur, mais que tu me dis, Seigneur, que si je viens qu'à faire du mal à mon prochain, je fais du mal à mon frère, ma sœur, Seigneur, ça doit s'arrêter là et je dois me restreindre. Toi, tu as eu cet amour pour moi, tu n'as pas hésité d'aller à la croix pour moi, tu t'es oublié, tu as tout abandonné par amour pour moi. Alors, Seigneur, donne-moi d'être un imitateur de ce que tu as accompli. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. On veut te ressembler et de ne point être, Seigneur, un sujet de discorde, un sujet choquant pour nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous dans ce combat pour chacun de nous et ce combat que mène ton Église. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.